Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Ces pièces font un carton, tant public que critique. 5 Molières en 10 ans et de vrais succès populaires, avec toujours des histoires pleines d'émotions, de rebondissements et de rythmes qui touchent et font mouche. Comme d'habitude, pas une seconde d'ennui, une fluidité entre les scènes qui s'enchaînent sans temps mort, d'astucieuses idées de mise en scène à foison, des dialogues ciselés, des personnages touchants dans sa nouvelle pièce qui nous parle du sort des migrants et de l'identité à travers le destin de réfugiés. De la jungle de Calais à la cuisine d'un restaurant parisien, d'un camion de gendarmerie à une salle à manger familiale, d'un wagon de train à une chambre d'hôpital, Alexis Michalik entraîne les spectateurs et ses comédiens, parmi lesquels Jean-Louis Garçon et Manda Touré, dans un souffle romanesque puissamment théâtral. Ils sont tous les trois avec nous pour évoquer cette pièce dont le nom tient en un seul mot, Passeport. Elle est à l'affiche du Théâtre de la Renaissance à Paris et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Jean-François Cadet.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a eu la prison avec Intramuros, il y a eu la PMA avec Une histoire d'amour, voici donc l'immigration et les réfugiés. Est-ce que vous êtes en train, Alexis Michalik, petit à petit et sans trop le dire, de devenir un auteur social, voire un auteur politique ?
En tout cas, ce n'est pas quelque chose de volontaire ou de prémédité, quoi. Je ne me suis pas dit, tiens, maintenant je vais faire un virage social. Mais il se trouve que moi j'aime bien me renouveler et j'aime bien m'attaquer à des genres nouveaux à chaque fois. Et ça a été le mélo avec Une histoire d'amour. Effectivement, Intramuros, c'était ma première pièce contemporaine. Et là, cette fois-ci, ben, le sujet fait que, à un moment, on est bien obligé de s'engager ou de se positionner. Et puis, c'est là que ça devient un peu politique.
Mais c'est-à-dire que vous êtes au diapason de plus en plus de la société, des problèmes politiques, des médias, des réseaux sociaux.
Bah, je vais pas refaire 15 fois Edmond, quoi, en fait.
Oui.
À un moment,
parce qu'on s'attend toujours à ça, mais finalement,
chose,
oui.
Quoi. Donc,
oui.
Je vais pas refaire que du théâtre historique, de la comédie, etc. Sinon, on s'ennuie, on s'encroute. Donc, et puis voilà, c'est une thématique qui me tenait à cœur, très à cœur. Et puis, c'est venu de l'histoire. Et l'histoire a entraîné une documentation sur le sujet. Et plus je me documentais, plus je me disais, ah, j'ai peut-être quelque chose à raconter quand même. Et très honnêtement, moi, j'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand j'ai un discours politique. Hein, j'ai l'impression d'être assez modéré. Et sauf que je me suis rendu compte que, en fait, aujourd'hui, simplement avoir un discours un peu humaniste et ouvert sur l'immigration et sur les réfugiés, Et ben c'est pas si modéré que ça.
Vous êtes vous-même issu de l'immigration, même si ça se voit pas ouais. Forcément sur votre visage. Est-ce que ça a compté justement dans le déclic qui a induit ce spectacle ?
Ça compte un peu. Je pense que pour moitié ça compte. Une partie de moi, effectivement, moi je suis fasciné par la quête de l'identité. Ma mère est anglaise, mon grand-père était polonais. Enfin voilà, je suis un descendant d'immigrés, mais blanc, donc non racisé. Donc évidemment, j'ai jamais subi le racisme. En revanche, j'ai grandi dans un quartier assez populaire, le 18e à Paris, et mes amis, mes camarades de classe, enfin voilà, moi, ma vision de la société française, c'est la ligne 2 du métro entre Blanche et Barbès, qui est une ligne assez
très populaire,
cosmopolite. Et j'ai toujours pensé comme ça, et donc évidemment, bon nombre de mes amis, eux, ont eu à subir les affres du racisme et puis des crises identitaires, donc ça me touche particulièrement.
Manda Touré, vous la connaissez aussi, la ligne 2 entre Blanche et Barbès ?
Je la connais. Ouais.
C'est le moins qu'on puisse dire, parce que vous étiez venu nous parler d'Afropolitaine, ça se passe pas très loin de cette ligne de métro-là.
C'est complètement le secteur.
Voilà. Et cette diversité hein, qui a construit Paris, mais qui a construit même la France, eh bien on la ressent dès les premiers mots de la pièce, quand les comédiens s'avancent face au public et ils se présentent à lui.
Je m'appelle Lucas. Je suis français. Je suis né aux Comores, à Mayotte. Mayotte, c'est une petite île dans l'océan Indien, pas loin de Madagascar. C'est aussi un département français, 300 000 habitants, à peu près comme la Corse, sauf que c'est 20 fois plus petit que la Corse.
Je m'appelle Jeanne. Mes parents sont maliens, mais j'ai grandi à Toulouse. Et non, j'ai pas d'accent parce que je suis née à Paris. Enfin, en région parisienne, mais je préfère dire à Paris. À part quand je suis pas à Paris, là, je dis Toulouse.
Arun, India. Mother Indian, father Indian, me Indian.
My name is Ali Mohammed al-Majid. My name is Ali. I am Syrian. You know where Syria is? You have Turkey, Iraq, Lebanon, Liban, Beirut, yes. Syria. My parents? My father was Kurdish, my mother was Arabic, and I am a mess.
Je m'appelle Yasmine. Père algérien, mère marocaine, et moi je suis née ici. Enfin, en Bretagne. Mes parents se sont installés en Bretagne. Il n'y avait pas beaucoup d'Arabes en Bretagne, mais ils sont tombés l'un sur l'autre. Et moi je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas, à Landerneau. Et puis je suis venue faire mes études à Paris. Et j'ai compris qu'on n'était pas les seuls Arabes de France.
Je m'appelle
Issa. Tu t'appelles Issa.
Issa, c'est vous, Jean-Louis Garçon, sur la scène du théâtre de la Renaissance. Et si votre personnage a besoin de l'aide de Yasmine pour se présenter, pour quelle raison?
C'est qu'il est amnésique.
Et pourquoi est-il amnésique?
Alors, on va le découvrir au fil de la pièce.
Oui. Bon, il a eu un petit problème, on va dire. Mais même cas, un gros problème.
Oui. Le premier indice qu'on a, c'est qu'on le retrouve battu à mort.
Voilà, battu à mort, donc dans le camp de réfugiés de Calais, donc dans le nord de la France. Alors, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus non plus quel est son parcours. Alors, c'est un personnage qui va énormément évoluer tout au long de la pièce. Dans quel état d'esprit est-il quand commence l'histoire, Jean-Louis Garçon?
Mon senti, c'est qu'il est comme un nouveau-né. Il a une page blanche en face de lui, en fait.
Ouais.
Et c'est assez génial pour un acteur de se retrouver avec une page blanche, face à lui. Et de profiter de toute la pièce pour écrire quelque chose dessus.
Alors c'est vrai qu'il a l'air un peu perdu, il a très peu de langage au début, hein. Il parle de façon très, très hésitante, même corporellement, même dans sa façon de se tenir, il y a quelque chose effectivement de neuf, d'inconfortable. Comment est-ce que vous vous tenez sur scène justement au début du spectacle? Parce que votre jeu passe d'abord par le corps finalement, beaucoup plus que par les mots.
Oui, il est dans une position de vulnérabilité, donc comment le traduire corporellement? Il y a un léger repli sur soi, il y a beaucoup d'observation, d'écoute des autres, d'essayer de capter des indices dans son environnement. Donc il est en recherche intérieure et extérieure à la fois.
Alors le seul lien qui lie ça à son passé, c'est son passeport, ce fameux passeport qui donne son titre à la pièce. Et sur ce passeport, il est écrit qu'Issa est de nationalité érythréenne. Alors l'Érythrée, donc dans l'Est de l'Afrique, dans la Corne de l'Afrique, c'est pas forcément le pays auquel on pense tout de suite, Alexis Michalik, quand on évoque les demandeurs d'asile en France. On pense à l'Ukraine ces derniers temps, on pense à l'Afghanistan, on pense à la Syrie, au Soudan, à la République démocratique du Congo. Ça, c'est statistique, hein. C'est pas seulement la Doxa. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un personnage venu d'Érythrée?
Eh bien, pour les besoins de la pièce, il fallait qu'il n'ait pas une grosse communauté en France. Donc l'Érythrée, ça me semblait pas mal. Et puis j'avais envie de prendre un pays que, entre guillemets, personne ne connaissait. Ou qu'en tout cas, on connaissait moins, évidemment, que l'Afghanistan.
Ceux qui écoutent RFI, évidemment.
Sauf ceux qui écoutent RFI. Enfin bon, ça reste quand même un pays plus petit et confidentiel qu'un grand pays comme le Soudan.
Pas un pays francophone non plus.
Et pas un pays francophone. Mais ça, c'est le cas de tous les pays dont viennent les ressortissants de Calais, on va dire. Hein, puisque leur point commun, c'est qu'ils veulent passer en Angleterre et donc rejoindre la famille en Angleterre et que la plupart ne parlent pas du tout français, que ce soit les Afghans, les Syriens, les Soudanais encore une fois. Et voilà, donc ça s'est porté sur l'Érythrée, qui est un pays original par plein d'aspects, hein, un petit pays mais avec neuf langues, dont on y parle neuf langues, on les cite toutes dans le spectacle. Et puis voilà, donc c'est une page blanche aussi pour le public, parce que le public ne connaissant pas ce pays, bah en fait, il est bien obligé de se représenter quelque chose et de s'imaginer quelque chose.
Alors, le rapport à la langue, c'est important parce que c'est aussi l'un des ressorts comiques du spectacle, en particulier à travers les deux amis d'Issa, Haroun, qui vient d'Inde, et Ali, qui vient de Syrie. Alors, on a là un trio de compagnons qui se soutiennent et s'entraident. Trois personnages très complémentaires. Vous les avez construits les uns par rapport aux autres, Alexis Michalik?
Oui, la grosse problématique pour moi, c'était d'arriver à faire en sorte de faire un spectacle où le public peut comprendre, parce qu'en réalité, dans la jungle de Calais, on parle anglais. Donc, je ne pouvais pas les faire parler anglais tout le temps. Et donc, Issa, pour une raison un peu inconnue, il lui reste quelques mots de français, donc il va pouvoir s'exprimer en français. Ali, qui lui était professeur d'anglais à l'université de Syrie, parle un anglais parfait, mais par contre il parle pas un mot de français.
Avec quelques notes de Shakespeare de temps en temps.
Quelques notes de Shakespeare, ouais. Voilà, un amour de la langue anglaise.
Ouais.
Et au milieu, il y a Haroun qui lui baragouine un peu de français et un peu d'anglais, ouais. Et donc il va faire le traducteur entre Ali et Issa. Et grâce à Haroun, grâce à ce personnage un peu clé, et ben en fait on peut faire en sorte qu'ils s'expriment tous et qu'ils se comprennent tous et que nous, public, même ceux qui parlent pas anglais, se retrouvent un peu dans la position justement de comment on fait quand on n'a pas le langage.
Voilà, ils le font pas vraiment dans un accent cockney le plus pur du monde. De
non,
toute façon,
Ali, il est indien. Oui, Haroun, il est indien, donc voilà. Forcément, il a un accent indien. Oui.
Voilà, alors Haroun, il est incarné par Kevin Razi, hein, qui est passé par le Jamel Comedy Club, qui a déjà une belle expérience de la comédie sur les planches et à la télé. Ali, c'est Faisal Safi, qui était déjà dans Intramuros. Sur scène, il y a aussi Ismaël Niakini, qui était dans Le Porteur d'Histoire, dans Une Histoire d'Amour. Plusieurs autres comédiens comme ça ont aussi joué sur les planches. C'est aussi avec vous, Alexis Michalik, c'est aussi votre cas,
Jean-Louis,
Jean-Louis
oui.
Garçon.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une bande à Michalik, Jean-Louis Garçon?
Il y a aussi Christopher Bayemi, qui était dans Intramuros également.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une?
Une bande à Michalik.
Il faut demander à Michalik. Ah.
Moi, je oui. veux croire oui. qu'il y a une famille oui. de comédiens, bien oui. sûr. Et dont les choses en commun, c'est que c'est... En tout cas, ceux qui se retrouvent sur plusieurs spectacles, c'est qu'ils ont des valeurs communes, des valeurs de solidarité, de troupe, d'empathie, et qui sont capables de jouer un spectacle longtemps et beaucoup, non seulement avec brio, mais aussi avec conscience de la troupe et conscience des autres. Et c'est le cas de Jean-Louis, c'est le cas de Christopher, c'est le cas de Faisal, de Patrick, d'Yves.
Et ça se construit comment, un esprit de troupe?
Eh ben, ça s'invente pas. C'est-à-dire que eux vont se retrouver. En fait, bon, tout est dans le casting, hein, mais humainement, voilà, c'est chacun de ces acteurs, ils sont pas dans un ego démesuré. Ils sont au service des autres. De toute façon, ils s'aident tous, ils déplacent les décors, ils aident leur costume. Et au milieu de tout ça, il y a des petits nouveaux comme Kevin Razi
et comme Manda Touré. C'est la première
c'est ça,
fois.
Exactement.
Ils vous ont accueilli comment alors les comédiens de la troupe?
Magnifiquement bien. Il y a un esprit de troupe effectivement. Je trouve, mais qui est né tout simplement de l'amour qu'on a eu de cette pièce à la première lecture. Quoi. On était tous tellement heureux d'y participer qu'on s'est tous dit « oh mon Dieu, c'est génial, on est trop heureux d'être là ». Et puis bah, on s'est rendu compte qu'à tellement être heureux d'être là, en fait on s'aimait énormément. Voilà, tout
comment simplement. Est-ce que vous avez été embarqué dans cette aventure?
Et ben, un jour, il m'a envoyé le texte.
Déjà, tu peux expliquer comment on se connaît?
Ah oui, déjà, comment on se connaît? Monsieur est comédien quand même à la base.
Ah oui,
donc, on s'était rencontrés sur un film italien complètement déjanté qui ne sortira jamais en France, mais qui était une aventure folle.
Mais qui a fait 7 millions d'entrées en Italie.
Qui a fait 7 millions d'entrées en Italie.
Tolo Tolo.
D'accord.
Checco Zalone.
Il va falloir regarder ça alors, oui.
Et qui parlait déjà de la caravane des migrants.
Mais oui. C'est
effectivement,
vrai.
Puisque c'était l'histoire d'un Italien qui se retrouve embarqué dans la caravane des migrants. Et Manda jouait l'héroïne de ce film. Et moi, je faisais un espèce d'humanitaire un peu, un peu Instagram.
Ouais.
Et on s'est rencontrés là-dessus, au milieu de tous ces Italiens. Et je me suis dit, ah, elle est super cette actrice.
Et donc, vous avez été harponné
voilà,
quelques temps après pour cette pièce.
C'est ça.
Oh donna, neni jaravide kelela, oh donna. Oh donna, neni furunyonde kelela, oh donna. Ai bangi bolola ne kana, ai bangi bolola ne kizela. Ayibanki bolo dane kuna, ayibanki bolo doni nyala, medusu kolobe divina. Kune dumbe njaradife, ne dumbe nganumfe, ne dumbe njaradife. Thank you.
Kanou Fatoumata Diawara dans VMDN sur RFI avec Alexis Michalik, dramaturge, metteur en scène, comédien aussi. Son nouveau spectacle Passeport est à l'affiche du Théâtre de la Renaissance à Paris avec parmi les comédiens Amanda Touré et Jean-Louis Garçon qui sont également avec nous aujourd'hui. Alors c'est donc la première fois que vous travaillez avec Alexis Michalik. Amanda Touré, c'est comment ?
C'est super, on s'ennuie pas du tout.
Donc ça, c'est comme les spectateurs dans la salle. Alors justement, je veux vérifier quelque chose, parce qu'on lit des choses dans la presse, parfois on se demande si c'est vrai ou pas. Il veut pas de temps mort non plus en répétition, c'est vrai ?
C'est sûr qu'en répétition, on a tellement de choses à travailler que bon, si on commence
mais
à
c'est très structuré ou ça part dans tous les sens
répétition. C'est très structuré quand même. Des fois ça part un
par
peu
exemple,
dans tous les sens, on est des comédiens.
Il fallait arriver texte su.
On peut se dire que c'est la moindre des choses, non ?
C'est la moindre des choses, mais demandez à Amanda si elle avait l'habitude d'arriver texte su sur une première répète.
Heureusement que c'est pas filmé, mais je pense que tout le monde aura deviné la réponse. Hein. Bon, c'est vrai qu'Alexis Michalik est toujours en train de claquer des doigts comme ça pour impulser du rythme dans les répétitions.
Oui,
ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une sorte de jeu du ballon en répétition.
Oui.
C'est quoi le jeu du ballon, Jean-Louis Garçon ?
C'est un éloge de la mauvaise foi.
Mais ça, c'est tout le sujet d'un spectacle, ça, je comprends bien. Un échauffement sportif
Oui.
Et ludique, c'est très simple. C'est un carré tracé au sol, et puis en fait, on se met autour et on joue au ballon, et ça permet un peu de se mettre en condition, de jouer ensemble déjà, et puis effectivement, de laisser place à notre plus grande part de mauvaise foi. Quand non, la balle est passée à côté, non, elle était à l'intérieur, et c'est celui qui ment le mieux qui a gain de cause.
Alors, le rythme, donc en répétition ou en spectacle, c'est l'une de vos obsessions. Vous êtes obnubilé, Alexis Michalik, on le sait, par le spectateur, par la peur de causer ne serait-ce qu'une demi-seconde ou un centième de seconde d'ennui. La pièce dure 1h30, et c'est vrai qu'on ne voit absolument pas le temps passer. 1h40, bah oui, ça m'a paru même encore plus court, vous voyez, donc voilà. Ce souci, justement, de ne jamais ennuyer, vous l'avez en écrivant la pièce ou bien lorsque vous passez des mots jusqu'au travail de plateau ?
À toutes les étapes, c'est-à-dire que quand on a attaqué les répétitions, la pièce durait un quart d'heure de plus, ne serait-ce que par un peu de texte supplémentaire. Et puis moi, au fur et à mesure, je coupe du gras. Dès que je sens qu'il n'y en a pas besoin, dès qu'il y a une scène qui n'est pas nécessaire, je vais couper. Et puis parfois, il va y avoir un moment où je vais dire « bon bah ça, il faut qu'on élargisse, il faut qu'on prenne le temps. Prenez le temps de boire le thé, là. Prenez le temps vraiment à cet endroit-là. Il y a certains comédiens qui vont cabotiner, souffler sur leur thé, etc. Je ne vais pas citer de nom, mais bon, il est peut-être à table. Et sinon, à part ça, non. Et au fur et à mesure des répétitions, on va effectivement resserrer de plus en plus en allant à l'essentiel, quoi.
Alors sur scène, ce souci du rythme se traduit par les images qui défilent sur l'écran en fond de scène, par des jeux de lumière, on bascule côté jardin ou côté cour, par un glissement d'accessoires, des décors comme ça qui sont mus par les comédiens eux-mêmes, en particulier une sorte de boîte qui sert à plein de choses dans le spectacle, un conteneur qui sert effectivement à figurer plein d'autres lieux de l'action. On retrouve là toute la magie de votre théâtre. L'écran, les images projetées, ça c'est un procédé que vous avez utilisé souvent ?
Ouais, ça fait quelques spectacles que je l'utilise, mais avec parcimonie. Dans Une histoire d'amour, il y en avait un peu, dans Les producteurs un petit peu, mais cette fois-ci, je voulais vraiment que la vidéo ait une place un peu importante. Vu l'actualité, vu la variété des décors et le côté contemporain des choses, je voulais qu'on voit les photos du camp, des réfugiés, tout ça. Et donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait une lumière très faible si on veut avoir une belle vidéo. Et donc, on a travaillé sur des lumières très précises, très ciselées et pas des gros pleins feux qui éclatent tout le plateau. Et ça a permis à Nathalie Cabrol de faire de la vidéo. Et pour ce faire aussi, vu qu'on a des petites lumières, pour qu'on ait quand même l'impression de bien être avec les comédiens, il fallait qu'ils soient portés par du son. Et donc, ils ont tous des micros HF et on peut jouer avec le son. On peut pousser un peu leur voix quand elle est un petit peu plus intime ou la baisser quand ils déclament. Donc, c'est assez chouette.
Alors, ne pas ennuyer le spectateur, c'est une chose. Mais avec vous, on se dit aussi que vous voulez pas que les comédiens s'ennuient. Il n'y a pas de temps mort pour eux non plus.
Bah, faut leur demander.
Il y a toujours un truc à faire quand on n'est pas au plateau, mandatouré.
Quasiment, oui. Quand on n'est pas sur le plateau, il y a un changement de costume à faire. On peut potentiellement aider aussi un collègue qui a un changement de costume un peu délicat à avoir. On peut préparer déjà un décor pour une autre scène. Donc,
avec une feuille de route très précise, y compris lorsqu'on n'est pas devant les spectateurs.
Oui. Oui, oui.
Concrètement, il n'y a pas de coulisses. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas. Il n'y a pas un moment où ils peuvent sortir de scène et aller en loge pour prendre un café.
Ça, non, ça c'est pas possible. Pas. Oui.
Je crois que leur plus long temps qu'ils doivent avoir, ils doivent avoir 3 minutes de pause, mais c'est très actif, quoi.
Lorsque le bateau part, personne ne se regarde. Les yeux tournés vers l'avenir, vers l'horizon. Tout le monde espère simplement arriver de l'autre côté. Au début, le voyage est tranquille. Dans la nuit, l'onde est calme et reposante. Et le silence des étoiles berce cette assemblée d'anonymes. Puis la mer se réveille. La mer se fâche malgré nos prières. Et soudain, ces étrangers se tiennent les mains. Érythréens, Soudanais, Syriens, Éthiopiens, Tchadiens, Maliens, Somaliens. Nous ne formons qu'un seul peuple pour affronter ensemble la peur d'être engloutis par l'océan invincible. Lorsqu'un enfant se met à pleurer, on voudrait tous pouvoir l'accompagner dans ses sanglots. Mais pour affronter nos angoisses et le rassurer, l'un d'entre nous se met à chanter comme un cri et sa voix couvre celle de l'enfant, stupéfait. Puis, quelqu'un d'autre se met à taper dans les mains, en rythme, et très vite, tous nous tapons dans les mains, alors que la mer pourrait nous avaler à chaque instant. Le rythme de nos mains ne forme qu'un seul battement de cœur, une pulsation qui ne veut pas s'arrêter, un cœur qui veut battre, un cri qui dit que l'Europe nous attend. En Europe, il n'y a pas de guerre. En Europe, il n'y a pas de famine. En Europe, il y a du travail et la démocratie et la sécurité sociale. Et nous avons survécu jusqu'ici et nous sommes encore vivants. Alors ce n'est pas la mer qui va nous engloutir. Nous allons survivre, nous allons vivre. Et le rythme de nos mains nous donne le courage de traverser la fureur de cette tempête.
Waouh. Alors c'est un des moments les plus forts, les plus émouvants, les plus lyriques aussi de la pièce Jean-Louis Garçon, d'autant que ce récit c'est le moment où votre personnage explose hein, littéralement sur scène. À travers ce récit, il joue très gros votre personnage. Est-ce que c'est aussi un moment important pour l'acteur, pour le comédien que vous êtes à l'intérieur de ce travail?
L'acteur il disparaît, c'est vraiment Issa qui joue sa vie à ce moment-là. Après, l'acteur, non, il a la responsabilité de restituer le texte de l'auteur. Et
oui, oui, là, c'est écrit au cordeau, là, pour le coup.
Et en respectant la chorégraphie de tout ce qui se passe derrière en même temps.
Oui, alors comment on fait pour respecter une chorégraphie qui est dans son dos?
On prie beaucoup.
Non, c'est du travail et de la précision, bien sûr.
Oui, j'imagine. Comment on se met en bouche un texte comme celui-ci, qui est vraiment tout en contraste avec la façon dont on perçoit le personnage juste avant?
Alors, Alexis, bouge-toi les oreilles. En fait... Quand c'est bien écrit, c'est très simple. Vraiment. Les mots viennent naturellement quand ils ont été pensés, à mon avis mâchés, et puis il y a aussi un comédien qui a écrit, donc c'est vraiment naturel, ça sort très simplement.
Ça change ça, quand c'est un comédien qui écrit le texte et pas seulement un dramaturge?
Oui, bien sûr, parce qu'il écrit avec un rythme, il écrit avec une respiration, il écrit avec... une vision de ce qui est en train d'être joué, je pense.
C'est un monologue qui est arrivé assez tard dans la création de la pièce. Dans une des versions précédentes, il n'y avait pas toute cette partie-là de l'Odyssée, etc. Puis j'aurais dit, ah tiens, en fait, j'ai écrit un nouveau truc. Et puis Jean-Louis a lu le truc, il m'a dit, ah ouais, c'est chouette, c'est pas mal ça, c'est un beau cadeau, quoi. Mais je voulais qu'il y ait vraiment ce moment que ce soit un moment lyrique. Je voulais qu'effectivement, par contraste avec Issa, qui a un français limité parce qu'il vient d'arriver et parce qu'il apprend au fur et à mesure, que là, il y ait vraiment une espèce de parenthèse où ça devient une odyssée. Moi, à chaque fois que je parle de ce moment, je dis bah voilà, c'est l'odyssée. Et c'est ce moment où tout à coup, il se met à parler superbement avec de la poésie, avec du lyrisme, et qu'on se met et que c'est pas juste un truc, un moment contemporain et misérabiliste, disons. C'est quelque chose de beau et sublimé par cette tragédie, quoi.
C'est un héros.
Et puis c'est un cadeau. C'est un cadeau mis en abîme, c'est-à-dire que c'est un cadeau d'Alexis. Au comédien qui incarne Issa, mais c'est un cadeau de l'ami d'Issa, Ali, qui écrit pour lui un texte pour le
mettre... Un texte absolument magnifique, avec là encore Shakespeare en arrière-plan lointain, mais en arrière-plan quand même. Est-ce que c'est un héros, Issa, pour vous, Jean-Louis Garçon? On parlait d'Odyssée il y a un instant. Là,
au sens de la tragédie ou de... Au sens lyrique, oui, c'est un héros, dans le sens où c'est le personnage qu'on va suivre et qui va nous emmener dans sa quête à la découverte des autres personnage.
Oui, c'est l'épine dorsale hein, du spectacle. C'est celui qui suscite le plus d'empathie. Vous parliez d'empathie tout à l'heure avec le public. Alors, vous êtes Jean-Louis Garçon, un comédien assez atypique parce que vous êtes arrivé dans le métier assez tard. Vous avez fait l'ESSEC, prestigieuse grande école de commerce. Vous êtes devenu cadre dans une grande entreprise française parce que vous le valiez bien. Qu'est-ce qui vous a fait, je pense que chacun aura compris, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer comme ça vers la comédie? Mettez-nous au parfum.
En fait, quand j'ai intégré cette multinationale, j'avais derrière moi un très très gros prêt étudiant à rembourser. Et merci, cette multinationale m'a permis de le rembourser assez vite. Et une fois que je suis arrivé à flot en termes de finances, je me suis dit, je peux me payer des vacances. Enfin, où est-ce que je pars? Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de ma maman qui me disait, petit, pourquoi tu fais pas du théâtre? Pourquoi tu fais pas de la danse? Et j'en ai jamais fait, c'est-à-dire que je suis jamais monté sur une scène, ni à l'école, ni où que ce soit, jamais fait de danse, rien du tout. Et là, je me suis dit, je me paye un stage. Et la seule école que je connaissais, c'était le cours Florent.
Qui n'est pas la pire.
C'est la seule que je connaissais,
d'accord,
en tout cas. Et je,
t'es un peu normand. Hein,
et je me suis offert...
Martinique et normand.
Tu sais que c'est très proche, hein, parce qu'il est... Bon, bref. je me suis offert... Une semaine de stage sur scène et une semaine face caméra. Et hasard des rencontres et bonheur des rencontres, il y a un ou deux professeurs qui m'ont tapé sur l'épaule et je me suis dit, ah, c'est chouette. Et donc, je me suis inscrit en cours du soir. Donc, j'y allais après la multinationale, de 19h à 22h. Et puis, à un moment donné, il a fallu faire un choix puisque la multinationale me proposait un job à Londres. Mais de l'autre côté, j'avais déjà été piqué.
Et le virus a été plus fort.
Et j'ai choisi, ouais.
Toi, la chanteuse burkinabé Candy Guira, prix RFI Talent 2019 dans VMDN. Manda Touré, Alexis Michalik et Jean-Louis Garçon sont avec nous pour parler de la pièce Passeport à l'affiche du Théâtre de la Renaissance à Paris. Combien est-ce que vous incarnez de personnages, Manda Touré?
1, 2, 3, 4, 5 au moins, je crois.
Et vous n'êtes pas celle qui joue le plus de personnages, il y en a d'autres qui, je crois, parfois jusqu'à 8 rôles. Hein. C'est assez impressionnant, en particulier Patrick Blandin, qui vous accompagne dans cette aventure. Et parmi tous les personnages que vous incarnez, Manda Touré, il y a Jeanne. Jeanne, c'est une journaliste, beau métier. Hein.
N'est-ce pas
appréciée par tout le monde, visiblement, dans la pièce. Voilà. Alors, elle est née à Toulouse, de parents maliens. C'est une fille... de son époque, une fille de sa génération, elle est féministe, elle est un peu écolo, elle est engagée, elle est extrêmement au courant. C'est une fille concernée, dirait-on, aujourd'hui.
Très concernée, effectivement. Mais je pense, comme c'est le cas de plus en plus de personnes de ma génération, finalement.
Absolument. Alors, elle enquête, hein, elle est journaliste, donc elle enquête sur la jungle de Calais. Elle va aussi avoir une rencontre singulière avec un jeune gendarme, Lucas, qui est joué par Christopher Bayemi, qui est un enfant adopté, né dans l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien. Et à un moment donné, celui-ci l'invite chez ses parents. Et le premier contact avec le père, Michel, militaire retraité, joué justement par Patrick Blandin, et disons assez, assez rugueux, d'autant que le jeune homme n'a pas prévenu son père d'un tout petit détail.
Ah, vous êtes...
Oui.
Ah ben, Lucas m'avait pas prévenu.
Prévenu que...
Bonjour, je suis Christine, la maman de Lucas.
Bonjour.
Bienvenue, Jeanne. Oh, est-ce que vous êtes jolie.
Merci.
Ce sont vos vrais cheveux?
Non, je les ai piqués à une indienne. Ah. Je plaisante, c'est mes cheveux.
Ils sont très beaux, en tout cas.
Y a besoin d'aide en cuisine, maman?
Oui, mon chéri, viens m'aider.
Vous voulez que je...
Non, 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 tout va bien. Michel, tu sers à boire à Jeanne?
Il vous avait pas dit que j'étais noire?
Il avait effectivement omis ce détail.
Vous êtes au courant qu'il est noir aussi?
Dans cette maison, on ne distingue pas la couleur de peau. Lucas est français, c'est tout.
D'accord.
Vous buvez du vin?
Oui.
Ah, vous n'êtes pas musulmane, alors?
Non, et vous?
Et moi?
Vous n'êtes pas musulman.
C'est une blague.
Oui. Les blagues sont interdites, ici?
Les bonnes, non. Rouge ou blanc?
Comme vous.
Rouge, alors.
Parfait, merci.
Sénégal? Cameroun?
Nigeria, Ouganda, Maroc, on fait la liste des pays d'Afrique.
Vous avez de l'esprit, c'est bien. Vous avez grandi où?
Moi, à Toulouse.
À Toulouse?
Oui.
Et vos parents?
Ils vivent encore à Toulouse et ils vont bien, merci de demander.
Mali.
C'est le nom du vin?
Ils viennent du Mali, vos parents.
Bien vu.
Voilà, moi c'est ce que j'appelle un sacré ping-pong verbal. Hein. Et là, je pense m'en attourer que beaucoup de Françaises ou de Français qui ont la peau noire et qui sont issus de l'immigration ont vécu ce genre de situation de dialogue. Vous confirmez?
Oui, je confirme. Normalement, là, cette scène, c'est la catharsis pour eux, logiquement.
Mais alors, il se trouve que vous êtes né à Toulouse aussi, de parents maliens. Donc, alors, vous lui ressemblez quand même beaucoup à son personnage, non?
Oui, coïncidence. Je quand même beaucoup, oui.
Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est pour vous que ce personnage a été écrit?
Mais alors, il faudrait demander à l'auteur.
Bah, voyez, oui, on parlait de ping-pong. Et bah, voilà, on renvoie la balle de l'autre côté. Disons de la table que, du studio, Alexis Michalik.
Ouais, bah, disons que j'avais quelques acteurs auxquels je pensais pour les rôles, effectivement, en écrivant. C'est le cas de Manda, effectivement, en faisant une Française née à Toulouse, mais grandie à Paris, de parents maliens. J'étais là, tiens, ça ressemble un petit peu à Manda, ça. Et puis, c'est le cas aussi de Yasmine, qui est jouée par Isman Yakini, qui était mon assistante sur une histoire d'amour, qui jouait dans Le Porteur d'Histoire, où je m'étais dit, ah, tiens, ça lui irait bien. Donc, effectivement, il y a quelques personnages auxquels je pensais en écrivant le... Quelques acteurs auxquels je pensais en écrivant le livre.
Alors, on parlait de ping-pong à l'instant. Il y a vraiment, entre Jeanne et Michel, une vraie discussion politique, comme il peut y en avoir dans bien des familles françaises ou alors entre amis. Hein, avec, du côté de Jeanne, là, des arguments très précis qui viennent un peu ruiner la fameuse théorie du grand remplacement. Le mot est prononcé dans le spectacle. Là, pour le coup, il y a clairement une prise de position politique, Alexis Michel. Ça ne dure pas très longtemps, mais le match est là.
Voilà, je pensais, en fait, au fur et à mesure que je me documentais, bon, j'avais déjà plus ou moins cette idée-là sur ce sujet-là, mais plus je me documentais et plus je découvrais des armes de réponse à toutes ces idées reçues qui, évidemment, ne sont que des idées reçues et ne sont basées sur rien à part la haine de l'autre et point. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de raison, c'est juste un ressenti raciste, quoi. Et puis, au fur et à mesure, plus je lisais, notamment un excellent bouquin qui s'appelle tout simplement « L'immigration en France », je trouvais plein de réponses très précises. Et donc, le challenge, c'était d'arriver à en faire une scène de théâtre, donc pas non plus quelque chose de trop didactique, quelque chose qui est un dialogue où il y a des rebondissements, où il y a un enjeu et où il y a de l'humour. Mais ce qui est fabuleux, c'est quand cette scène arrive... les réactions du public tout à coup.
Ça les surprend ?
Ça les surprend. Et puis, on a entendu le dialogue avec Michel et Jeanne avant que le dîner arrive. Et déjà, ça les met en condition. Il y a ce truc de ping-pong, de Oh, à chaque phrase de Michel, quand même, qui balance des trucs un peu durs et de plus en plus réac. Et puis, il y a la réponse de Jeanne. Et de plus en plus, on sent que le public est sur se mobilise de son côté et a envie. On a tous rêvé de fermer son caquet à quelqu'un qui dit ce genre de d'idées reçues. Et là, bah, c'est Jeanne qui s'y colle, quoi.
Voilà, et on apprend plein de choses, effectivement. Il y a des chiffres, il y a des éléments un peu didactiques, mais pas trop. Le dosage, j'imagine, est pas si simple que ça. Hein.
Disons qu'entre le texte qui est édité chez Albin Michel et la version finale, il y a eu quelques trucs qui ont sauté, qui ont été améliorés, qui ont été un petit peu affinés, parce qu'il y avait beaucoup de chiffres.
Mais c'est vrai qu'on apprend aussi pas mal de choses. Par exemple, on apprend pourquoi la jungle de Calais s'appelle la jungle. Alors, vous nous expliquez, Mona Touré, je crois que c'est dans votre texte.
Oui, alors, en 2002, apparemment, il y aurait eu un camp à Sangatte dans le nord de la France. Moi, je ne le savais pas avant de lire d'ailleurs ce texte. Et ce camp a été démantelé, laissant plein de migrants dans la forêt, et qui étaient surtout afghans. Et donc, forêt en persan se dirait jungle. Bah oui, ils n'ont pas de forêt, ils n'ont que la jungle là-bas. Logique.
Voilà, jungle, on est passé donc à la jungle. Et votre personnage, à vous, Jean-Louis Garçon, donc Issa, apprend à se mouvoir dans une autre jungle, la jungle administrative française, grâce à Chantal, agente de l'OFPRA.
Tout d'abord, tu dois obtenir une adresse de domiciliation administrative et un rendez-vous à la préfecture.
À la préfecture.
Voilà, la préfecture qui dépendra de ton adresse.
D'accord.
Pour obtenir le rendez-vous, il faut passer par une SPADA.
Une SPADA.
Une structure de premier accueil de demandeurs d'asile, c'est moi. Et la SPADA va organiser la prise de rendez-vous au GUDA de la préfecture.
Au GUDA.
Le guichet unique des demandes d'asile.
D'accord.
Ensuite, tu dois obtenir une autorisation provisoire de séjour. Est-ce que tu viens d'un pays considéré par l'administration française comme sûr?
Je sais pas.
Tu viens d'où déjà?
Érythrée.
Voilà, ça c'est très bien, parce que l'Érythrée c'est pas du tout un pays sûr. Enfin, c'est très bien, je veux dire, pour être placé dans une procédure de demande d'asile normale.
Et après c'est bon?
Non. Après, tu dois obtenir les conditions d'accueil auprès de l'OFI.
L'OFI?
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui te permettra de demander une place en CADA.
En CADA?
Un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Mais je te préviens, les places sont assez rares.
D'accord.
Ensuite, tu devras envoyer ta demande d'asile à l'OFPRA.
L'OFPRA?
L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et là, c'est important, écoute-moi bien.
D'accord.
Si ton dossier passe, et la réponse peut prendre quelques mois, tu auras un entretien à l'OFPRA. Et là, c'est le grand oral. Tu devras raconter d'où tu viens et pourquoi tu dois rester ici.
D'accord.
Et je te conseille de donner un maximum de détails sur ton pays d'origine. Parce que ce sont ces détails qui convaincront le jury, si je puis dire.
Ah.
Ensuite, tu devras raconter tout ton périple jusqu'en France avec le plus de précision possible.
Ah.
Et enfin, tu donneras les raisons précises pour lesquelles tu es menacé si tu devais retourner dans ton pays d'origine. Et donc, pourquoi tu dois absolument rester ici. Et c'est cet entretien qui déterminera si oui ou non tu mérites un titre de séjour.
D'accord.
Alors vous répétez, je ne sais pas combien de fois, d'accord, dans cet extrait-là. Est-ce que ça se travaille un seul mot, le mot d'accord? Parce qu'il y a énormément de choses dans les différents d'accord, avec pas toujours la même nuance exacte, Jean-Louis Garçon.
Ça me fait penser à un exercice qu'on avait fait dans ma première année au cours Florent.
D'accord.
D'accord, où on devait jouer les derniers mots de notre vie avec un texte soit scientifique, soit médical, qu'avec des termes qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc en fait, ce qui compte, c'est le sous-texte plus que le mot en lui-même. Et avec le même mot, effectivement, on peut faire passer plein de sentiments différents.
Alors tout est vrai hein, dans tous
dans
les signes,
dit, ouais.
Et dans toute la procédure.
C'est exactement ce qu'il faut faire quand
on arrive. Chris Magnacchini développe sur scène. Est-ce que vous êtes entrés les uns et les autres avec des associations, avec des réfugiés eux-mêmes pour travailler sur ce spectacle avec Michel?
Alors, pour travailler sur le spectacle, non. Tout était dans les livres. Pour moi, toute la source de documentation, c'était surtout des livres. En revanche, depuis, effectivement, on a un partenariat avec le Palais de la Porte Dorée, avec le Musée de l'Immigration. Voilà, on essaie de rentrer en contact avec plusieurs assos et de voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser le spectacle et le succès qu'il pourrait avoir justement pour rediriger les gens ensuite vers une asso pour qu'ils puissent simplement aider à cet accueil, à ces réfugiés. Donc il y a plusieurs avec qui on est en contact.
Alors partenariat avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration, partenariat aussi avec les Cuistots Migrateurs, un traiteur qui emploie des cuisiniers réfugiés en CDI à plein temps, des chefs qui partagent les saveurs de leur pays d'origine avec la clientèle française. Alors ça nous a intrigués, notre reporter Clara Gabillet a cédé à l'appel de ses papilles gustatives et s'est rendue chez eux à Montreuil en banlieue parisienne. Reportage.
Sur les plans de travail en inox en cuisine, chacun s'active pour préparer la commande du lendemain. Il y a la partie dessert, les plats chauds, en passant par l'emballage des plats qui seront livrés. Babs s'occupe des entrées et des mezzés.
Là, je suis en train de préparer du saumon grave lax avec des zestes, c'est une épice iranienne. On va mettre avec ça.
Ce Sénégalais de 39 ans est chef de partie. Il travaille ici depuis 6 ans.
Ce que je préfère, c'est mes plats. Les plats sénégalais comme le mafé, pour le faire en fermant les yeux. Toutes les recettes qu'on fait ici, c'est des recettes étrangères. Il y a des recettes sénégalais, iraniens, afghans. Et tout ça, je l'apprécie grâce à toute l'équipe.
Babs préfère ne pas parler des raisons qui l'ont poussé à quitter le Sénégal pour la France. Il travaillait là-bas dans un commerce, déjà passionné de cuisine. Mais ici, au Cuistot Migrateur, il s'est professionnalisé, comme tous ceux qui travaillent ici, qui à la base ne sont pas des pros de la cuisine.
L'avantage d'ici, en fait, on te donne la soie de faire ce que tu as envie de faire. Et eux, ils vont t'accompagner. Parce que tous les plats qu'on fait ici, toutes les recettes, c'est des recettes familiales. Mais eux, ils nous aident à le moderniser, à le faire à la française.
Un emploi en CDI qui a permis à ce réfugié de s'établir ici à Paris.
Ça m'apporte déjà tranquillité, de travailler et gagner ma vie déjà. C'est la base, c'est en France, si tu ne travailles pas, tu n'es rien.
Ce ne sont que des personnes réfugiées qui travaillent ici, des hommes et des femmes de tous horizons, ce qui crée un mélange des cultures, des langues et une forme de solidarité.
Des amis, des frères et tout. Des fois, on doit du travail, on va au resto, on se voit, on parle, on a des questions. On s'aide entre nous.
Les odeurs se mélangent à mesure que les plats se préparent. Houmous, brochettes de poulet, pâtisserie. Dans la pièce d'à côté, Bichoun Gouroun s'affaire à éplucher et couper les légumes. Ce Népalais, ancien militaire, a été embauché il y a 7 ans.
Ma recette préférée, ce sont les momos, des raviolis népalais. Ce sont des raviolis à base de porc. Je suis content ici, avec l'équipe, je suis heureux. Chaque jour, j'améliore mon français.
Ils sont une douzaine d'employés en cuisine au Cuistot Migrateur. La majorité a un permis de travail et de séjour. Louis Jacot, l'un des deux cofondateurs.
On a choisi de valoriser leurs recettes de cuisine parce que la cuisine, c'est un peu magique. La cuisine, c'est que du positif, c'est des couleurs, c'est des odeurs, c'est du plaisir, c'est du partage. Nous, on a surtout envie de montrer, un, que c'est possible, deux, que c'est souhaitable et que, en fait, surtout que ces personnes ont envie de bosser. Des gens qui ne sont pas là pour les minima sociaux. C'est souvent un parcours très complexe, très long et un peu par hasard, ils se sont établis ici. Et donc, c'est aberrant de leur fermer la porte.
Louis Jacot insiste, ce n'est pas une association. Il y a, comme dans chaque entreprise, des objectifs, des règles. Les salariés sont traités comme tout le monde, une intégration par le travail à laquelle il tient beaucoup.
Un CDI, ça permet de se poser, de ne pas changer tous les 6 mois d'appartement, de France Terre d'Asile, de rescolariser ses enfants, puis construire une nouvelle vie ici. Je cite souvent l'exemple de Faek, syrien, qui est arrivé, qui a fui la guerre, qui est arrivé de mémoire en octobre 2015, qui n'avait jamais tenu un couteau de sa vie de cuisine, qui ne parlait pas français. Et aujourd'hui, Faek, non seulement il parle français, il est second de cuisine dans une brigade de plus de 10 personnes. Et il est en maîtrise d'une palette de recettes, pas que syriennes d'ailleurs, qui est impressionnante.
Les cuistots migrateurs se sont étoffés avec les années. Il y a 4 ans, l'entreprise a créé une école gratuite, diplômante. Déjà 150 personnes réfugiées ont été formées pour devenir commis de cuisine ou serveur.
Reportage de Clara Gabillet à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, tout près de Paris. Comment est-ce que vous les avez découverts, ces cuistots migrateurs, Alexis Michel?
Le thème de la pièce, effectivement, Issa, au bout d'un moment, va se retrouver en cuisine avec Haroun, et puis il va se découvrir un certain talent pour de cuistots et de chefs, et il va chercher à ouvrir son restaurant. Donc on se disait, qu'est-ce qu'on peut trouver qui serait en lien avec cette histoire? Et les cuistots migrateurs, c'était exactement ce qu'on cherchait, quand il parle de son prénom qui est arrivé, qui finit seconde cuisine en brigade, c'est un peu ce qu'on raconte dans le...
Ouais, il y a effectivement un effet miroir par rapport à la pièce. Ils vous ont nourri pendant les répétitions, le soir de la première, je sais pas, Jean-Louis Garçon, vous avez goûté leur spécialité? Le soir de la première, oui.
Il y avait d'autres choses. Un très grand buffet.
Délicieux. Ouais.
Bon, la nourriture, elle joue effectivement un rôle important dans le spectacle. Est-ce que la cuisine, Manda Touré, pour vous, c'est un bon vecteur d'intégration, de découverte, de tolérance vis-à-vis de ceux qui sont différents?
Ah, ça, c'est sûr. ça met tout le monde d'accord. Donc à partir de ce moment-là, oui, très bon vecteur d'intégration. J'ai rien à dire de spécial. Vraiment, la cuisine, c'est sûr, quoi.
Surtout dans cette troupe, c'était un bon vecteur.
Ah oui,
de...
mais oui.
D'accord.
Bon vecteur d'intégration.
Voilà, très bien. Petite précision du metteur en scène. Alors, la régularisation dans la restauration, dans les métiers en tension, comme on dit, a été validée dans le cadre de la loi immigration par le Conseil constitutionnel, qui a censuré 32 des 86 articles de cette loi immigration. Ont par exemple été annulés les quotas migratoires annuels, les mesures qui ciblaient les étudiants étrangers, les dispositions qui resserraient les conditions du regroupement familial ou l'accès à certaines prestations sociales. C'est une bonne nouvelle, Alexis Micheli, quand on voit la pièce, on se dit que cette annulation est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est une bonne nouvelle qu'ils aient été annulés. Moi, personnellement, je serais allé beaucoup plus loin. Mais enfin bon, j'aurais retoqué la loi entièrement, mais je pense que c'est une... On se trompe de coupable, tout simplement. Hein. On est dans une société qui se droitise de plus en plus, qui répond aux sirènes de l'extrême droite. Donc, heureusement qu'elle soit passée par le Conseil des Sages et que, effectivement, les mesures les plus alarmantes et les plus tristes, je trouve, ont été annulées. Bon, il en reste encore quelques-unes.
Alexis Michalik, Passeport, comme d'autres de vos pièces, c'est un texte destiné à être adapté aussi à l'écran ou... Au cinéma ?
Pas par moi, en tout cas pas tout de suite.
Mais vous ne fermez pas la porte ?
Je ne ferme pas la porte. Après, c'est un objet théâtral qui vient de naître et c'est là son actualité principale. Un jour peut-être, mais j'aimerais bien, moi, j'adore le cinéma, j'adore faire des films, mais la prochaine fois que je fais un film, j'aimerais bien que ce soit un scénario original et non pas une adaptation.
Eh bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les trois, Alexis Michalik, Jean-Louis Garçon et Amanda Touré. Passeport, la pièce au Théâtre de la Renaissance à Paris. Le texte est disponible chez Albin Michel.
Forever travel the eyes. Sick in remembrance, glimpses of the primal dawn.
Raindrops, Naaman featuring Foundation pour terminer cette émission. Merci à tous de nous écouter, merci également de votre fidélité. Cette émission était une rediffusion. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures culturelles. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Broken down with no love within them, catapulted from the ground.